Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
XXIe loi, c'est la loi de la succession. La loi de la succession. Premier grand principe, c'est la succession d'un leader qui montre sa valeur dans le temps. C'est la succession d'un leader qui montre sa valeur dans le temps. D'abord, c'est quoi la différence entre un héritage et une succession? Un héritage, ce sont des biens. C'est la succession d'un leader qui montre sa valeur dans le temps. Là, on va regarder la différence d'abord entre un héritage et une succession, parce que souvent ça s'est mal compris. Un héritage, ce sont des biens. Une succession, ce sont des personnes. Ce sont des personnes. C'est la différence entre les deux. Un héritage, tu peux laisser un héritage à tes enfants. Ils ont des maisons. Ils ont de l'argent sur un compte en banque. Tout ça, c'est un héritage. Mais une succession, ce sont des personnes. Tu peux laisser derrière toi des fils qui reprennent ce que tu as fait et qui continuent et qui amènent l'œuvre beaucoup plus loin alors que toi, tu n'es plus là. Ça veut dire que la vision va continuer alors que toi, tu n'es plus de ce monde. C'est ça, une succession. Parce que tu as implémenté chez des personnes un certain nombre de choses qui font que ces personnes, alors que tu es absent, que tu n'es plus existant sur cette terre, continuent la vision que tu as commencé, dans laquelle tu as travaillé toute ta vie. C'est ça une succession. Une vraie succession, ce sont des personnes en qui tu as implémenté un certain nombre de choses et qui finalement vont continuer l'œuvre que tu as commencée, que tu as amenée à une certaine hauteur, une certaine maturité, mais eux vont prendre là où tu as laissé l'œuvre et l'amener encore plus haut, alors que toi, tu n'es plus là. Ça, c'est beau. C'est vraiment très, très beau. Vous en avez un bel exemple ici, d'ailleurs, dans ce pays. Avec vos fameuses églises, la borne, et extension, et surextension, et désextension, et archi-extension. Non, mais soyons clairs. Les bons exemples sont bons à prendre. Même s'ils ne sont pas parfaits. Aucun modèle n'est parfait. Mais c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Franchement, je suis très inspiré par tout ce que j'ai vu ici de ce côté-là. Ça m'inspire beaucoup parce que, vous savez, quand on est leader, on aime bien avoir des résultats. Et le leader vous dit « Ah, nous avons fait ça, nous avons une église de temps, nous avons construit un bâtiment. » Tout ça, c'est bien, c'est des résultats. Mais le jour où tu ne seras plus là, ça va se passer comment? Vous savez, il y a parfois des leaders qui laissent des bombes à retardement dans leur leadership. Quand ils ont parti. Et on va voir qu'une succession, ça se prépare. On va voir une succession, c'est une mentalité. Un leader qui a la mentalité de la succession, c'est quelqu'un qui voit très loin. C'est difficile au début, parce qu'on est embarqué dans notre leadership. Ce qu'on veut au début, c'est réaliser des objectifs, c'est normal. Tu es là, tu bosses, tu es leader, tu formes des suiveurs, tu formes certains leaders aussi, et tout marche bien, tout le monde parle de toi. Ok, mais le jour où tu ne seras plus là, que va devenir ce que tu as implémenté? Tout ce pourquoi tu as donné ta vie, qu'est-ce que ça va devenir? Combien de fois nous avons vu des papas qui ont bossé comme des durs, qui ont commencé avec rien, faire de belles sociétés qui marchent très bien, et le fiston qui rentre dans le bureau du papa parce que le papa est décédé, et en 3 ans, il vous fout en l'air ce qu'un homme a mis toute sa vie à construire. Ça, c'est parce que le leader n'avait pas la perspective de la succession. Il n'avait pas compris ce principe de leadership, la succession. Ce n'est pas facile de penser le jour où je ne serai plus là, parce que tu es encore là. Donc tu te dis, ah, moi je suis là les mecs, hein, je ne suis pas encore parti. Hein. Donc pourquoi vous pensez que je vais être déjà enterré? Oui mais d'accord, mais c'est toi qui dois y penser. Et on va voir que ça va venir du leader. C'est ça la différence. Alors notez qu'il y a 4 niveaux de leadership. 4 niveaux de leadership. dans ce domaine-là, bien sûr. Numéro un, il y a l'accomplissement. Accomplissement. Quand quelqu'un fait quelque chose pour lui-même, un diplôme par exemple, c'est un accomplissement. L'accomplissement, c'est le premier niveau du leadership. Quand quelqu'un fait quelque chose pour lui-même, par exemple un diplôme. Deuxième niveau, le succès. Le succès. Deuxième niveau du leadership, le succès. Quand un leader arrive à réaliser des choses avec ceux qu'il a formés, il a des résultats, si vous préférez. Le succès, c'est arriver à des résultats. Tu as formé des gens et vous avez rempli des objectifs. Vous avez réussi à faire des choses. Numéro 3, l'impact. Donc numéro 1, l'accomplissement. Tu fais quelque chose pour toi-même, un diplôme par exemple. Numéro 2, le succès. Le succès, c'est tu as rempli des objectifs. Tu es arrivé à quelque chose avec les gens qui t'ont suivi. Numéro 3, l'impact. L'impact, c'est former des leaders. Tu as formé des leaders. Tu as formé des leaders. Donc vraiment, vous avez eu une croissance explosive, c'est formidable. C'est un troisième niveau que peu de leaders atteignent d'ailleurs. Mais le quatrième niveau, c'est la succession. La succession. La succession. Notez que la succession est créée quand un leader met son organisation, la succession est créée quand un leader met son organisation dans une telle dimension, la succession est créée quand un leader met son organisation dans une telle dimension que tout peut être fait sans lui. La succession est créée quand un leader met son organisation dans une telle dimension que tout peut être fait sans lui. Ça veut dire qu'il y a continuité dans le leadership. Continuité dans avec l'absence du leader, le créateur, entre guillemets, celui qui a initié, l'initiateur. Donc la succession est créée quand un leader met son organisation dans une telle dimension que tout peut être fait sans lui, c'est-à-dire il est absent, il n'est plus là, il est mort. Il y a à ce moment-là continuité dans son leadership. Une autre pensée sur ça, sur cette première partie. Notez que la durée et la qualité de votre œuvre sera marquée dans le temps avec votre absence. La durée et la qualité de votre œuvre sera marquée dans le temps avec votre absence. Que ceux qui sont dans le leadership, moi inclus, aient des oreilles pour entendre. Parce que si tout s'arrête quand vous n'êtes plus là, ça va montrer la pauvreté de votre leadership. Si tout s'arrête le jour où vous disparaissez, ça montre ce que vous avez fait. Ça veut dire que ce que vous avez fait, c'est médiocre au niveau de votre leadership. Ça veut dire que vous n'avez pas été capable de voir le futur de votre leadership. Et malheureusement, c'est le lot de la grande majorité des leaders. Ils voient le temps présent, ils cherchent à faire ce qu'ils peuvent faire et ils n'arrivent pas à voir le futur, c'est-à-dire le jour où ils seront partis. Quel dommage. Quel dommage. Deuxième grand principe, excusez-moi si je vais un peu vite. Le plus important est de laisser une succession. Deuxième grand principe, le plus important est de laisser une succession et non pas un héritage seulement. Le plus important, c'est de laisser une succession et non pas un héritage seulement. Eh oui, il faut qu'on réfléchisse là-dessus, frères et sœurs. Je me mets dans le lot, hein. De le lot de tout le monde. Tout le monde. Vous savez, quand j'enseigne sur ce cours, souvent, moi-même, je me remets en question sur certains principes, hein. Ouais, vraiment que le Seigneur nous aide dans l'humilité. Qu'on puisse vraiment réaliser les carences qu'on peut encore avoir. Le manque des fois de vision à très long terme que l'on peut avoir. Vous savez, nous les leaders, des fois on bosse dur pour quelque chose et malheureusement parfois c'est un feu de paille pour la génération d'après. Il casse tout. Parce que nous n'avons pensé qu'au moment présent. Nous avons eu un impact dans la génération présente. Moi, je me bagarre ici sur ce continent pour une chose, c'est que nous puissions avoir des églises fortes et puissantes qui vont laisser à la génération dans laquelle nous sommes, non pas une espèce d'adhésion à l'évangile ou une espèce de religion protestante, mais réellement le feu de Dieu et l'enseignement de la parole. Pour moi, c'est une bataille de tous les jours, je vous dis franchement. Tous les jours, je me bats pour ça. Je me bats pour ça pour la francophonie. Quelles que soient les critiques, quels que soient les moments difficiles, même quels que soient mes défauts et mes problèmes personnels, peu importe, c'est là-dessus que je me bagarre. C'est pour ça que je veux être connecté avec des bons leaders. Pas des farceurs, pas des opportunistes, pas des gens qui sont là parce qu'ils veulent remplir leur ventre ou veulent créer leur empire, mais qui veulent vraiment comprendre ce pourquoi nous sommes destinés dans cette génération. Parce que je vous le dis, l'Afrique vit des choses aujourd'hui. Si nous laissons une belle succession, les générations qui vont venir pourront construire et continuer ce que nous avons commencé. Par contre, si nous sommes là simplement à vouloir dire que l'on fait, on prêche l'évangile et on est simplement là pour faire nos églises, nous n'irons pas loin, frères et sœurs. Nous n'irons pas loin. Et c'est un défi, parce que le monde veut nous pousser à ça. Le monde veut nous pousser à l'isolement. Le monde veut nous pousser à finalement ne penser qu'à aujourd'hui. Beaucoup de leaders chrétiens se bagarrent simplement pour leur bien-être ou pour montrer qu'ils ont été capables de faire ça ou ça pour leur propre gloire. Et ça, c'est vraiment triste. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour créer quelque chose sur lequel d'autres vont construire. Nous sommes là pour amener un évangile qui va rester vraiment le pur évangile. Avec nos défauts, avec nos problèmes, avec nos chutes, avec tout ce qu'on veut. Ça, c'est autre chose. Mais au moins, nous devons avoir ce cœur-là pour les gens. Si nous avons simplement un cœur pour se dire « c'est formidable, en Afrique c'est facile d'avoir des grosses églises parce qu'il suffit que tu fasses ça, ça et ça », eh bien tu as tort, tu es en train de faire n'importe quoi, tu ne comprends rien du tout à ce que Dieu veut faire. Dieu veut amener vraiment l'influence de son royaume sur ce continent d'une façon incroyable. C'est pour ça qu'il y a un futur pour l'Afrique qui est formidable. Moi je crois à un futur extraordinaire, mais hey, ça ne se passera pas par hasard. J'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je vous dis, ce n'est pas mon sujet malheureusement, là, mais je n'ai vraiment pas le temps. Donc le plus important, c'est de laisser une succession et pas un héritage. Vous pourrez voir ça dans le ministère de Christ. Le ministère de Christ a été marqué par une succession. Rappelez-vous de ce qu'il est dit dans Acte 1, verset 1. Ce que Jésus a commencé de faire. Vous connaissez cette expression ? Oui, ce que Jésus, hein, Luc écrit, c'est ce que Jésus a commencé de faire. Mais qui devait continuer ? Ceux qu'il avait formés, les disciples, entre autres. Jésus a laissé une succession. Il a utilisé la loi de la succession. Jésus a eu un immense succès dans son ministère terrestre, mais son objectif était de former des gens pour le jour où il serait parti. C'était sa vision. C'est pour ça qu'il va prendre un certain nombre de gens qu'il va former. En vue de créer quoi ? Une succession. Une succession. Il va leur faire un héritage au travers de l'œuvre de la croix, mais ce sont eux, les disciples, qui vont être loin avec l'onction apostolique, qui vont porter et amener plus loin et répandre l'évangile. Jésus dira, je ne suis envoyé qu'aux brebis d'Israël, rappelez-vous. Mais les apôtres avaient pour mission d'aller jusqu'où ? Vous comprenez la succession, là. Jésus a dû se concentrer pour créer une succession. Parce qu'il savait qu'il allait retourner auprès du Père. Lui allait travailler en Israël et il a été, la Bible nous dit, de ville en ville et de village en village. Partout, il a annoncé la bonne nouvelle. Partout, il a essayé de guérir les malades. Partout, il a fait des miracles. Mais ce n'était pas l'objectif de Jésus. L'objectif final, c'était que quand il irait auprès du Père, il y ait 12 bonhommes moins un, parce qu'il y en a un qui a gaffé, on le sait, Judas, qui s'est rebellé, 12 moins un, qui allait quoi faire ? Être loin par la puissance du Saint-Esprit, la plus grosse onction qui existe du ministère, c'est-à-dire l'onction apostolique, et qui allait partir jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, qui allait continuer ce que Jésus avait commencé de faire. Et si vous comprenez ça, vous allez commencer à comprendre comment Jésus a utilisé la loi de la succession. Donc au début, vous pourrez lire Luc chapitre 5, Luc chapitre 6, alors Luc 5, 6, 9 et 10. Luc 5, chapitre 5, Luc chapitre 6, Luc chapitre 9 et Luc chapitre 10. 5, 6, 9 et 10. Donc, quand vous lisez les évangiles, regardez. Jésus va d'abord trouver qui ? Pierre. Il va d'abord le trouver. Ensuite, il va trouver ses frères. Ensuite, il va choisir les 12. Ensuite, il va envoyer en mission les 12. Ensuite, il va en choisir 70. Il va les envoyer en mission. Et après, il va déléguer une autorité et une mission à qui ? À toute l'Église. Dans Matthieu 28. Dans Matthieu 28, il dit que nous devons aller prêcher jusqu'aux extrémités de la terre et de faire des nations des disciples. Alors, notez qu'il y a trois sortes de choses que les gens veulent laisser derrière eux quand ils ont terminé la période la plus productive de leur vie. Trois choses que les gens veulent laisser derrière eux quand ils ont terminé la période la plus productive de leur vie. Trois choses que les gens veulent laisser derrière eux quand ils ont terminé la période la plus productive de leur vie. Première chose, des souvenirs. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent avec des souvenirs, vous savez. Une photo de mariage, un diplôme, des souvenirs. J'ai été dans tel pays, j'ai ramené ça. Donc les souvenirs, ça commémore des événements. Ça commémore des événements ou des activités qu'on a faites. Événements ou activités. Un beau souvenir, tu regardes une photo, tu dis « Ah oui, c'était quand j'avais 20 ans, là. » C'est bien, c'est sympathique. Mais le jour où tu meurs, c'est juste des choses qui sont statiques. Ça ne laisse rien derrière toi. Rien derrière toi. Donc ça, c'est la première chose que les gens laissent quand ils partent. Numéro 2, des trophées. Des trophées. Les trophées, ça marque des victoires. Les trophées, ça marque des victoires. Ça veut dire que tu étais dans la gamme au-dessus du panier de tout le monde. Dans la gamme supérieure, il y a Usain Bolt qui a remporté, je ne sais plus, le 100 mètres ou je ne sais plus quoi, le 100 et 200, et il a eu la stupidité de faire une déclaration que quelqu'un de stupide peut faire. Vous savez ce qu'il a dit ? I am a legend, legend. C'est complètement stupide, une légende vivante, une légende d'aujourd'hui. Et il a méprisé ceux qui sont passés avant lui. Imaginez-vous, quand j'ai lu ça sur Internet, je me suis dit, mais franchement, pauvre garçon. Il est champion olympique, je crois qu'il est même champion du monde, c'est ça ? Je crois qu'il a gagné les championnats. Il a battu le record du monde. Et il fait une telle déclaration. I am a legend. Je suis une légende. J'ai trouvé ça d'une bassesse. Un gars qui remporte, qui est l'homme le plus rapide du monde sur des distances comme ça, qui sont les distances les plus primées en athlétisme, qui fait une telle déclaration. Mais ça prouve que dans sa tête, excusez-moi de le dire, il est petit, ce monsieur. Il est peut-être grand avec ses jambes, mais dans sa tête, il est petit. Franchement, j'ai trouvé cette déclaration d'une stupidité, mais incroyable. Un gars qui est là, qui est acclamé par le monde entier, on dit « Ah, oh, c'est extraordinaire, la performance !» Et c'est extraordinaire pour un homme de faire une telle performance, qui fait une telle déclaration après avoir gagné. Il aurait mieux fait de dire « Je remercie mon entraîneur. » qui a été capable de croire en moi. Ça aurait été intelligent comme déclaration. Dire, cette victoire, je la dédie à telle ou telle personne qui a eu de l'impact dans ma vie et qui m'a permis de remporter ce trophée. Ça aurait été beaucoup plus intelligent plutôt que de dire, je suis une légende. Ah, yeah, ça... Non, mais franchement, frères et sœurs, quand on voit des trucs comme ça, on se dit, mais franchement, qu'est-ce que ces gens-là ont dans la tête ? Des gens que le monde entier acclame, des centaines de millions de gens, peut-être même un milliard de personnes, imaginez. Vous voyez comment le monde est ? Ça, c'est le monde. La gloire personnelle. Un trophée. Sauf que le jour où il sera mort, le monsieur, il aura certainement été battu par 2 ou 3 ou 5 personnes dans 10, 20 ou 30 ans. On n'entendra même plus parler de lui. On dira, oui, il y avait un certain Usain Bolt en 2012 qui avait gagné, où il avait battu le record du monde. Mais maintenant, on est déjà bien loin. Il y en a déjà 3 qui l'ont surpassé. Vous voyez ? Le jour où tu meurs, il n'y a plus rien de ton trophée. Les trophées, c'est vrai que ça marque. Tu es là, tu as remporté de belles victoires. C'est très bien. C'est sûr que tu étais dans la gamme supérieure. Mais fais attention comment tu gères ça. Parce qu'il y a vraiment des gens qui gèrent ça mal. Franchement, Usain Bolt, il m'a choqué. Je suis vraiment... choqué de voir ça parce que c'est vraiment un gars qui a réalisé une super performance. Mais alors être aussi petit dans sa tête par rapport à ça, franchement, ça prouve qu'il est plein d'orgueil, ce monsieur. Et c'est vraiment dommage, vous voyez. Ça prouve vraiment cette mentalité du monde. Numéro 3, une succession. Je trouve que ça gâche tellement la beauté de l'athlétisme d'entendre des choses comme ça. Une succession. Notez qu'une succession ne marque pas un événement ou une réussite sur le passé. Une succession. Une succession ne marque pas un événement ou une réussite sur le passé, mais elle laisse à partir du passé un impact sur le futur. Une succession ne marque pas un événement ou une réussite sur le passé, mais elle laisse à partir du passé. Donc une succession ne marque pas un événement ou une réussite sur le passé, mais elle laisse à partir du passé un impact sur le futur. Un impact sur le futur. Un impact sur le futur. En fait, une succession, c'est un don pour les générations futures. Une succession, c'est un don pour les générations futures. Ce n'est pas de moi, c'est de John Maxwell. Quelqu'un a dit que, pour Jésus, la bonne nouvelle était son message. La bonne nouvelle était son message, mais la succession était sa méthode. C'est intelligent, ça. Hein? Ah oui. La bonne nouvelle était son message, mais la succession était sa méthode. Si aujourd'hui nous connaissons Christ, c'est parce que Jésus a su créer une succession. Eh oui. S'il avait juste fait des miracles, des guérisons, qu'il était mort sur la croix, et qu'il n'avait rien laissé comme personne qui allait continuer l'œuvre qu'il a commencé de faire, eh bien mes chers amis, l'évangile serait mort dans un petit coin. Donc l'évangile, c'était la bonne nouvelle, c'était son message. Mais la succession, c'était la méthode qu'il a utilisée pour que ça aille jusqu'à nous. Troisième grand principe de vous rappeler. Notez que les successions ne sont pas laissées par hasard. Les successions ne sont pas laissées par hasard, par accident si vous préférez. Les successions ne sont pas laissées par hasard. Donc il va falloir planifier, je sais que les jeunes, ce n'est pas un enseignement qui vous intéresse beaucoup. Mais nous qui avons dépassé les 40, voire les 50, ça commence à nous intéresser, n'est-ce pas? C'est normal. Parce que nous avons déjà entamé une partie de notre vie. C'est sûr que quand tu as 20 ans, tu penses à ton avenir. Maintenant, quand tu commences à vieillir, tu commences à réfléchir sur ce que tu as construit pendant 20 ou 30 ans. Et puis tu regardes devant toi en disant, j'en ai encore X dizaines d'années. Moi, j'en ai jusqu'à 95 ans, donc j'ai encore du temps. C'est ma confession. Qu'il soit fait selon votre foi. La succession doit être planifiée et préparée. La succession doit être planifiée et préparée. Donc ça, c'est important. Il faut que le leader planifie et prépare la succession. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire pouf comme ça, automatiquement. Parce que je vous donnerai quelques exemples de successions qui se sont bien passées et d'autres qui se sont très mal passées. Très mal passées. Ça se prépare. Et d'autres, on ne sait pas comment... Mais Dieu a fait vraiment un grand miracle pour certaines autres. C'est étonnant d'ailleurs. Mais la plupart du temps, ça se prépare. Vous savez, dans ces lois-là, il y a toujours la généralité, mais il y a parfois l'exception. Ça c'est vrai. Mais il ne faut jamais que tu comptes sur l'exception. L'exception des fois arrive d'une façon surnaturelle, tu ne sais pas pourquoi ni comment. Ça c'est clair. Les lois ici, ce sont des lois générales. Mais il est vrai parfois. Par exemple, une succession qui s'est très bien passée, qui aurait pu très mal se passer, c'est la succession de John Austin avec Joel Austin. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous, vous avez entendu parler de la plus grande église des États-Unis, qui est celle qui est à Houston, qui est de John Austin. J'avais eu le privilège dans les années 88 de visiter l'église de John Austin. Je ne l'ai jamais rencontré personnellement, mais j'ai juste visité son église à l'époque. Et c'était un homme qui travaillait très dur, c'était un homme qui avait une grande vision pour évangéliser le monde entier. D'ailleurs, ce jour-là où j'étais au culte, il était en train de demander à ses gens de donner des contributions de 1 000 $, 5 000 $, 10 000 $ pour acheter des projecteurs, pour projeter le film Jésus en Inde. C'est un homme qui était très simple, John Austin. Et il avait construit un temple de 10 000 places. Et pendant son ministère, il n'a jamais réussi à remplir sa salle. Le maximum qu'il ait eu, d'après ce que j'ai pu savoir, c'est jusqu'à 6 000 personnes. Il n'a jamais réussi à en remplir les 10 000. Il y avait différentes raisons pour ça. Mais c'était vraiment un homme de Dieu qui a vécu beaucoup de choses Et c'était vraiment ce que j'appellerais un dinosaure des Américains dans ce domaine-là, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment marqué leur temps, John Austin. Et Joel Austin, lui, il s'occupait simplement de faire ce que le monsieur fait là, vous voyez, derrière la caméra. C'était quelqu'un qui était dans le département multimédia. Et d'une façon étonnante, la succession s'est très bien passée, parce que le jour où John Austin, la période où il était proche de mourir, il a demandé à son fils, juste un peu avant, de prêcher. Et son fils s'est senti complètement, mais complètement inadéquat, incapable de le faire. Il l'a quand même fait, et d'un seul coup, Dieu l'a revêtu d'une onction. Mais ça, c'est exceptionnel, c'est très rare. Et Joel Austin a amené l'église là où John n'avait jamais réussi, son père n'avait jamais réussi à l'amener. C'est un peu étonnant. Ça, vraiment, c'est une succession rare. Mais la majorité du temps, les successions se préparent. Elles se préparent et elles se préparent bien. Parce que parfois, ça peut mal se terminer. Ça peut extrêmement mal se terminer. Je connais une église en France qui était une église qui était une... À l'époque, dans les années 80, c'était sur Paris, je dirais, l'église dont on parlait le plus. C'était une église qui était à l'origine baptiste. Et le pasteur avait commencé à s'ouvrir au don du Saint-Esprit. Il avait commencé à voir le mouvement charismatique. Et il s'était ouvert. Et il avait reçu le baptême du Saint-Esprit lui-même. Il avait amené le baptême de l'Esprit, la prédication et des gens aussi pour prier pour ses brebis, tout ça. Et l'église, franchement, avait vraiment très bien progressé. Ouvert au don spirituel, il était vraiment devenu... C'était vraiment l'église charismatique de Paris qui était la plus en vogue à l'époque. Vraiment, qui marchait le mieux. Ils avaient des orateurs que personne d'autre n'amenait à l'époque, etc., etc., etc. Et cet homme de Dieu, par contre, n'avait pas du tout la perspective de la succession. Il était assez âgé et au bout d'un moment, il a dit, voilà, moi, je vais me retirer du ministère, il faut que quelqu'un prenne la suite. Et malheureusement, cet homme ne savait pas faire. En fait, il avait dit qu'il se retirait. Ils ont fait venir un autre pasteur qui avait déjà de l'expérience, qui a commencé à prendre la suite. Le problème, c'est que le vieux monsieur, à chaque fois que l'autre pasteur prenait une décision, il le contredisait. Et ça s'est terminé en une catastrophe totale. L'église aujourd'hui, bon, elle n'a pas fermé, mais c'était pas loin. Une belle église. Vraiment, c'était vraiment un très très beau travail qui a été foutu en l'air parce que le vieux pasteur n'avait pas compris ce qu'était la loi de la succession. Il a appelé un autre pasteur qui était vraiment bien, mais alors il lui a mis des bâtons dans les roues. En fait, il voulait toujours contrôler. Il voulait toujours contrôler sans laisser l'autre faire. Et quand tu donnes la succession à quelqu'un, tu te retires. Et tu laisses l'autre faire ses erreurs aussi. Et là, il a fait vraiment une immense erreur. L'église s'est divisée, il y a eu des histoires pas possibles. Ils se retrouvent, je ne sais pas s'ils sont à peine 150 aujourd'hui. En tout cas, pas grand monde veut aller dans cette église aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, vraiment, il y a eu beaucoup de gens qui se sont convertis. Elle avait vraiment bien progressé. Pour l'époque, c'était vraiment une belle église. Ça se passait très bien. Ils étaient dans un bel endroit. Ils étaient dans un endroit tout proche de Paris, qui touchait Paris, qui était chic. Donc des trucs très chers, extrêmement chers. C'était vraiment l'église dont tout le monde parlait à l'époque. Mais aujourd'hui, ça fait des années, à cause de cette succession qui s'est très très mal passée. Bon, vous voyez, la succession, ça se prépare. D'abord, numéro un, comment on prépare la succession? Les stratégies. Numéro un, décidez d'avance ce que vous voulez abandonner. Décidez d'abord ce que vous voulez abandonner. Ça veut dire le jour où vous voulez que quelqu'un vous succède de votre vivant, vous devez lui laisser. Qu'est-ce que vous voulez lui laisser? Est-ce que vous voulez laisser tout? Une partie? Un tiers? La moitié? Toutes les rênes? Juste un département? Une église? Toutes les églises? Qu'est-ce que vous voulez laisser? Ça, c'est votre choix au départ. Quand vous voulez abandonner. Numéro 2, prenez l'initiative de commencer le processus. Prenez l'initiative de commencer le processus. Là aussi, faites attention. Quand les gens vieillissent, les leaders vieillissent, des fois, il y a des loups qui tournent autour. Et ils attendent que le vieux leader meure. Et les loups s'emparent de l'œuvre. Ah oui. En tant que leader, quand tu commences à être assez âgé, tu as plutôt intérêt à commencer le processus. Parce que sinon, il y a des gens qui vont commencer à tourner autour de ce que tu fais pour prendre ta place de force une fois que tu seras mort. Et eux, ils vont mettre leur pion en position. Des stratégies charnelles et parfois même diaboliques. Parce qu'ils veulent ce que tu as fait, ce pourquoi tu t'es donné. Et ils seront sans pitié, ni pour ta famille que tu vas laisser derrière toi, ni pour ce que tu as fait ni pour ceux que tu aurais aimé voir prendre ta succession, parce que ce n'est pas toi qui as commencé le processus de succession. Vous voyez la différence? C'est important que le leader, à un moment donné dans sa vie, dise « Maintenant, je veux voir un successeur. » Tu commences à prier pour ça et tu vas commencer à voir certaines personnes potentielles. Mais tu dois, toi, commencer le processus. Dieu t'a donné une œuvre et c'est toi qui vas passer le témoin. Numéro 3. Ayez un but précis pour tous ceux qui prendront la relève. Ayez un but précis pour tous ceux qui prendront la relève. Ayez un but précis pour tous ceux qui prendront la relève. Ça veut dire que tu dois trouver des fils. Il va falloir que tu trouves des fils. Et pour ça, il va falloir que tu les trouves et que tu les développes. Des fils spirituels, des filles spirituelles dans le ministère, mais qui sont capables de prendre ta suite. Donc il va falloir que tu les trouves, que tu les développes. Ça, c'est important. Ça demande du temps, je vous le rappelle. Développer un leader, ce n'est pas en deux jours. Mais surtout quelqu'un qui va vous succéder. Est-ce qu'il va respecter ta famille? Est-ce qu'il va respecter ceux que tu as formés? Parce qu'il y a des gens, parfois, ils prennent la suite et, entre guillemets, ils font la peau à tous ceux avec qui ils n'étaient pas d'accord. Eh oui, et ça se passe très, très mal. Pas facile. Donc, tu dois faire attention. Tu dois avoir un but précis. Les préparer, les former. Numéro 4, préparez-vous à passer le bâton ou le témoin comme au relais, vous voyez ce que je veux dire? Le bâton du relais ou le bâton de l'autorité. Préparez-vous à passer le bâton de la bonne manière. Ça, c'est très très important aussi. Préparez-vous à passer le bâton de la bonne manière. Parce que parfois, ça se fait très mal, parce que d'un seul coup, il n'y a personne. Mais vous aviez préparé quelqu'un, mais vous ne l'aviez pas présenté. Personne ne savait réellement que c'est lui qui allait prendre la suite. Je me souviens d'un homme de Dieu un jour, au Burundi, qui est mort prématurément d'ailleurs, malheureusement. C'était vraiment quelqu'un qui avait un puissant appel de Dieu. Mais vraiment, son œuvre a été inachevée. Mais il sentait quelque chose qui lui tournait autour. Et je pense qu'il a fait quelques erreurs stratégiques dans ce domaine-là sur la protection divine. Et il a présenté son neveu comme étant son successeur. Il a mis symboliquement son manteau sur lui, sa veste sur lui. Et quelque temps après, il est mort dans un crash d'avion. Heureusement qu'il a fait ça, parce que sinon l'église aurait éclaté. Il ressentait, mais je ne crois pas que c'était sa destinée divine. Je ne crois pas dans la mort prématurée. Maintenant, si vous avez une autre opinion, ce n'est pas grave. Le jour où nous serons au ciel, nous irons voir le Seigneur Jésus-Christ et il dira « Le pasteur Olivier avait raison ». Grand quatrième principe. Les leaders investissent dans les gens pour leur succession. Vous savez que Jésus n'a jamais écrit de livre ou il n'a jamais formé d'école. Par contre, sa méthode, c'était d'utiliser les hommes. Les leaders, donc grand numéro 4, investissent dans les gens pour leur succession. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? D'abord, il a donné de l'instruction. Donc, il y a 4 choses qu'il faut faire pour préparer des successeurs. 4 choses à faire pour préparer des successeurs. D'abord, l'instruction. Jésus a instruit ses disciples, a révélé des choses à ses disciples. Bien des fois, vous vous rappelez la parabole du semeur? La parabole du semeur, Jésus va dire des choses en public. Mais en privé, il va donner des explications à ses disciples. Il va leur livrer des secrets du royaume. Vous savez, il y a des choses que vous ne pouvez pas transmettre à tout le monde en public. Il y a des choses que des leaders transmettent seulement à des leaders ou à des futurs successeurs. Tout n'est pas forcément bon à dire. Mais Jésus a su instruire ses disciples en vue de la succession. Numéro 2, la démonstration. Le successeur doit savoir comment les choses marchent. Et tu dois lui montrer, tu dois être un exemple pour lui. Tu dois lui donner tout ce qu'il doit faire, comment il doit le faire. Et il a vu chez toi faire ces choses-là. Comme ça, quand il prend la succession, il dit, mais non, le pasteur untel, il faisait comme ça, donc on continue ce qu'il faisait. Vous savez, il n'y a rien de pire que de prendre la succession de quelqu'un et de changer tout du jour au lendemain. Ça crée beaucoup de dégâts. Il y a des fois des pasteurs qui ont des ennuis et pour une raison ou pour une autre, ils quittent le ministère. D'un seul coup, un autre pasteur arrive et du jour au lendemain, il veut tout changer. Non, 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 la louange, ça ne se fait pas comme ça. Maintenant, nous allons faire comme ça et comme ça et comme ça. Oui, mais attends, ça fait 10 ans qu'ils font la louange comme ça. Assis sur une chaise avec un livre en train de chanter avec des voix de chèvre. Tu ne vas pas changer les voix de chèvre en voix de calasse, de grande chanteuse, du jour au lendemain. Et tu ne vas pas chanter tu vas pas changer un guitariste qui accorde mal sa guitare depuis 15 ans en super soliste. Non, ça prend du temps de faire ça. Si tu commences à brusquer les choses, ça se passe mal. Parce que souvent, l'autre ne t'a pas montré. Là, c'est des cas extrêmes, bien évidemment. Mais il faut démontrer. Ensuite, l'expérience. L'expérience. Jésus a guéri les malades, Jésus a prêché, mais il a envoyé ses disciples. Il leur a dit, allez-y, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, etc., etc. Chassez les démons. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été mis à l'école de l'expérience. Ça, c'est très important. Un successeur, ce n'est pas quelqu'un à qui tu donnes de la théorie, et le lendemain, tu dis, voilà, maintenant, prends le bâton et débrouille-toi. Il doit avoir une certaine expérience, une certaine maturité dans l'expérience. Et quatrième chose, l'évaluation. Tu dois évaluer ton futur successeur. C'est-à-dire, tu lui laisses les rênes, mais en même temps, tu lui dis, ok, je vais t'observer et je te critiquerai de façon positive. Vous savez, la critique est bonne à partir du moment où ce n'est pas une critique destructive. Il y a deux types de critiques. Il y a la critique destructive et la critique constructive. D'accord ? Ça, c'est important de comprendre. La critique destructive, ça fait mal aux gens. La critique constructive, c'est leur dire, voilà, tu ne fais pas comme ça, tu ne fais pas bien de faire comme ça, il faut que tu changes ce que tu fais. Et un peu forcer la main à la personne pour qu'elle change, si c'est un leader potentiel, si c'est un successeur. Vous voyez, ça c'est important. Dernière conclusion sur la succession, si vous voulez faire un numéro 5 ou pas, je vais passer très brièvement. Mais quelqu'un fait des statistiques à propos du leadership. Il y a 75% des leaders qui se focalisent sur les suiveurs. C'est un peu une conclusion sur ce thème. 75% des leaders se focalisent sur les suiveurs. Bon, ben il y en a qui restent, il y en a qui partent. C'est le succès du leader seul quand les gens restent. 75% des leaders se focalisent sur les suiveurs. 20% des leaders se focalisent sur la formation des leaders. Donc 75 seulement s'occupent des suiveurs. Focalisation, c'est les suiveurs. 20% se focalisent sur la formation des leaders. Donc là, ils ont beaucoup plus d'impact. C'est le succès pour les autres leaders, c'est le succès commun. Donc 75, c'est seulement sur les suiveurs. 20, c'est sur la formation des leaders. 4% se focalisent sur la formation de leaders de leaders. C'est-à-dire des leaders qui vont former des leaders. 4% se focalise sur la formation des leaders de leaders. 4% se focalise sur la formation de leaders de leaders. Et là, c'est l'organisation entière qui est dans le succès. 1% des leaders se focalise sur la succession. 1% des leaders se focalise sur la succession. Donc là, vous voyez bien les différents niveaux du leadership. La majorité, grande majorité des leaders, les trois quarts, se focalisent sur quoi? Des suiveurs. C'est-à-dire, j'ai une vision, je cherche des suiveurs, des gens qui vont me suivre dans ma vision, ils vont les former, ils vont faire ce que je leur dis de faire, je les organise, etc. Et on réussit ensemble, d'accord, mais c'est la vision du leader. Ensuite, on voit que 20% des leaders se focalisent sur la formation des leaders. Là, par contre, déjà, ils commencent à comprendre que ben, c'est bien de se focaliser sur la vision, mais il faut plus se focaliser, plutôt que les suiveurs, de se focaliser sur des leaders potentiels. Donc ça, c'est déjà mieux. Il y a déjà beaucoup plus d'impact. Ensuite, troisième niveau de leadership, nous l'avons vu, 4% eux se disent non. Moi, je vais me concentrer seulement sur un petit groupe de gens que je vais former dans le leadership, qui eux-mêmes vont former des leaders, et qui, etc., vont former des leaders, etc. Et là, il y a une croissance explosive, nous l'avons vu. C'est la loi de la croissance explosive. Par contre, il n'y a qu'un seul % des leaders qui réfléchissent plus loin que le bout de leur nez. C'est-à-dire qu'ils se disent, le jour où je ne serai plus là, qu'est-ce qui va rester derrière moi? Qui va prendre la suite? Un jour, j'ai fait un séminaire et j'ai eu, c'était en France, j'ai fait un séminaire et à la fin, j'ai vu une dame qui est venue me voir. Je ne vous dirai pas qui c'est. J'ai vu une dame qui est venue me voir et elle était en larmes. Et j'ai enseigné quelques principes de leadership. En fait, j'enseignais sur les 5 phases d'une œuvre de Dieu. Et une de ces phases-là, c'est justement la phase de passage du témoin. Quand une fois vous avez multiplié votre organisation, vous passez le témoin. Et elle était en larmes et elle m'a dit, mon père est pasteur, et c'est exactement ce que vous avez touché, le problème de la succession. Nous n'avons pas de quelqu'un qui va nous succéder. Voilà, nous clôturons par cette 21e loi où on va y arriver. Je commence à être un peu fatigué pour parler. C'est normal, vous le comprendrez. Voilà, alors maintenant nous allons rapidement passer aux questions. Donc j'ai tout un tas de questions ici. Donc je vais répondre à une bonne partie de ces questions. Mais je vais y répondre extrêmement vite. Donc vous vous identifierez à la question et vous allez rapidement, essayer de voir si c'est vous qui avez posé la question. Voilà, première question, quelle est la place de la faveur divine parmi les lois, les principes et les valeurs déjà apprises dans ce lieu? En fait, quelle est la place de la faveur divine? La faveur divine s'attire avec quoi? Avec ni plus ni moins l'application des lois du royaume de Dieu et le caractère. Les valeurs de caractère. À partir du moment où tu comprends le royaume de Dieu, les lois du royaume de Dieu, que tu les appliques dans ta vie et que tu travailles ton caractère, que ton caractère devient de plus en plus modelé selon les valeurs de Dieu, obligatoirement, tu attires la faveur de Dieu. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc simplement, appliquez les lois spirituelles du royaume et ensuite, soyez transformés dans vos valeurs. Dieu fonctionne avec quoi? Rappelez-vous, des principes et des valeurs. Les deux combinés attirera la faveur de Dieu. C'est déjà répondu. Alors, quelles sont les stratégies pour qu'un grand leader puisse maintenir son succès? Je crois qu'on en a déjà parlé. Nous avions vu un certain nombre de choses. Pour se maintenir dans le succès, d'abord, il va falloir continuer à mettre l'organisation toujours quoi, en mouvement. Vous vous rappelez de ça, entre autres. C'est la loi du momentum. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'un leader ne doit pas se reposer sur ses lauriers. Et d'autre part, il doit faire attention à son caractère. Et une dernière chose que j'ajouterais, donc il doit constamment continuer le mouvement, il doit faire attention avec son caractère et particulièrement continuer à être enseignable. On avait quand même répondu relativement à cette question. Alors, il y a quelqu'un qui a posé une question sur la dîme, vous avez dit qu'on ne paye pas la dîme, alors dis-nous ce qu'on fait. Eh bien simplement, change ta mentalité, acquiert la mentalité des finances du royaume et tu verras qu'on ne paye pas sa dîme, mais on donne sa dîme, avec les conditions divines, ce sont des lois spirituelles, il y a 5 piliers de la prospérité, je ne peux pas entamer ce sujet, j'en ai parlé dans l'église du pasteur Dallot, peut-être que vous pouvez vous fournir quelques MP3 dans ce domaine-là. Alors, pasteur, qu'est-ce qu'on peut faire quand dans notre leadership, on a des gens qui se donnent d'abord à la vision et qui s'engagent d'abord d'abord vis-à-vis du leader. On le répudie, oh là là, quel mot, directement, ou on les enseigne aussi ce qu'ils doivent faire et la manière de se comporter. Oui, alors en fait, vous voyez, dans le leadership, quand on a des problèmes comme ça, c'est souvent parce que les gens manquent de connaissances. En fait, vous rencontrerez deux types de personnes. Vous rencontrerez des gens qui manquent de connaissances, mais vous rencontrerez aussi des gens qui ont un bon ou un mauvais cœur. D'accord? Quand les gens manquent de connaissances, enseignez-les. Pourquoi répudier? D'abord, ce mot, je trouve que c'est un peu fort. D'accord? Ça parle de la femme, de mari qui répudie sa femme, mais répudier quelqu'un qui est autour de toi, non. Ça, c'est la mentalité n'est pas bonne. Tu fais attention. Tu regardes le potentiel qu'il y a dans ce leader et regarde s'il n'a pas eu la connaissance qu'il devait avoir, tout simplement. Et à ce moment-là, transmets-lui la connaissance. Et s'il a un bon cœur, tu vas en faire un bon leader. Et il va commencer d'abord à croire en toi, à croire dans le leader, et ensuite il va se donner pour ta vision, tout simplement. Alors, une autre question. On peut voir toutes les qualités d'un bon leader, maîtriser toutes les lois indispensables pour un bon leadership. Mais il faut aussi dire que le cœur de l'homme est mauvais. Alors, comment surveiller, ah, KGB, CIA, ces arrières, lorsqu'on investit chez les autres et on leur parle, et voire même les initier dans les projets, pour éviter des couteaux derrière, donc des Judas, et dans le dos, quand on est un bon leader. Bien, sachez une chose, les traîtres sont inévitables. Il y en aura partout. Il y a partout des gens qui vous feront des coups. Les plus grands leaders vous témoigneront tous. Jésus, numéro un, a eu un Judas. D'accord ? David a eu un Judas, Absalom, son fils, son propre fils, qui a voulu renverser son autorité. Imaginez-vous. Voyez ? Partout, il y a des Judas quelque part. C'est normal. Plus ou moins, à plus ou moins haut degré. Il y a des gens qui vous font des petits coups, d'autres qui vous font de gros coups, tout simplement. Ça, vous ne pouvez pas l'éviter. Vous devez le savoir. Le temps révèle les cœurs. C'est le temps qui montre si un cœur est bon ou pas. C'est tout. Voilà. Il n'y a pas d'autre jauge. Tu vas voir au fil du temps, au fil des moments, au fil des difficultés, si les personnes sont vraiment bonnes ou pas. Mais sache une chose, dans ce monde, il n'y a que 10% de gens vraiment foncièrement mauvais. Si tu n'arrêtes pas de tomber sur des gens qui te font des coups, moi je pense que tu as un problème. Regarde chez toi d'abord. Tu attires ce que tu es, rappelle-toi. Maintenant que tu es un Judas qui se pointe dans ton leadership, c'est normal. Deux ou trois, c'est normal. Peu importe. Ils partiront d'eux-mêmes si tu es un bon leader. Ils n'arriveront pas à leur fin. Par contre, regarde qui tu attires. Tu attires ce que tu es. Si tu es une bonne personne, tu vas attirer les bonnes personnes. Obligatoirement. Je ne te dis pas tout de suite. Au début, tu auras des opportunistes, tout un tas de gens comme ça. Mais ça va venir après, d'accord ? Bonjour, pasteur. Mes préoccupations sont les suivantes. Il y a des acteurs ou des écrivains qui ont parlé du leadership et qui étaient aussi des leaders. Mais vous n'avez pas fait allusion, tels que Max Weber, Franklin, je ne sais pas, Henri Fayol. Est-ce qu'ils n'ont pas d'influence ou leurs théories n'ont pas de motivation ? Je ne sais pas. Je ne connais pas ces auteurs-là. Je n'ai pas étudié suffisamment sur le leadership pour vous dire cela. Je ne peux pas vous répondre. Est-ce qu'un leader est toujours obligé de former les autres parce qu'on transmet ce qu'on a reçu ? Si alors il n'était pas enseigné, il va transmettre quoi ? Eh bien, souvent, quand nous n'avons pas de mentor, nous souffrons plus que les autres. Et nous avons plus de mal à percer que les autres. Maintenant, à partir du moment où quelqu'un n'a pas été enseigné au départ, tôt ou tard, Dieu va lui donner les bonnes connexions, s'il a un bon cœur, et il va progresser dans son leadership. Et à ce moment-là, il aura quelque chose à dire. Tu ne peux pas former quelqu'un si toi-même tu es un mauvais leader. Ça, on est bien d'accord. Mais tu vas grandir. Si tu as soif, tu vas être un bon leader et au bout d'un moment, tu auras quelque chose à dire et tu pourras former d'autres leaders et tu pourras les aider à ne pas faire les erreurs que toi, tu as faites. Voilà, tout simplement, c'est comme ça que ça marche. Ça marche. Quelle est la cause, une autre question, du manquement de leadership dans les chefs d'État, je présume, africains ? Et après la question, tout le monde peut-il devenir leader ? Ça, la deuxième question, on a déjà répondu dans le cours. Bien sûr, nous avons tous une graine de leadership potentiel en nous. Alors, quelle est la cause du manquement de leaders parmi les chefs d'État africains ? Je pense que la cause, d'abord, est spirituelle. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses ici qui se sont produites. Rappelez-vous, le continent était trempé dans la sorcellerie. Et la sorcellerie, justement, fait que les gens ont un leadership très diabolique. C'est la domination par les puissances invisibles, la sorcellerie. C'est vouloir te détruire. Si tu es mon ennemi, je veux te détruire au travers des esprits sataniques. C'est ça la sorcellerie, entre autres. Bon, donc évidemment, ça a eu beaucoup d'influence sur les gens. Alors, on avait aussi, bien évidemment, tout ce passé tribal. C'est-à-dire, tu es de ma tribu, je t'aime, tu n'es pas de ma tribu, tu es mon ennemi, entre guillemets. Sauf si les tribus ont fait des alliances ensemble. Bon, il y a tout un passé au niveau du leadership, au niveau de l'Afrique. Maintenant, c'est pour ça que nous, et c'est pour ça que moi, je vois prophétiquement l'Afrique dans des moments absolument extraordinaires. Pourquoi ? Parce que je crois dans ce continent. Pourquoi ? Parce que les habitants se donnent en masse à Christ. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on soit éduqués tous au bon leadership. Ce qui fait que nous aurons une émergence de leaders qui vont être créés de plus en plus, qui vont pouvoir diriger correctement. C'est comme ça que l'Afrique sera changée, au niveau du leadership. Mais rappelez-vous, le problème numéro un de l'Afrique aujourd'hui, c'est le leadership. Ce n'est pas les ressources naturelles, il y a plein, c'est un continent ultra riche. C'est le problème de leadership, c'est-à-dire des gens qui veulent tout bouffer uniquement pour eux-mêmes, qui sont prêts à payer tout. Imaginez-vous, par exemple ici en RDC, on peut même avoir créé des rébellions ou des groupes de gens armés dans un territoire si on paye les gens adéquats qui sont responsables de territoire. On peut le faire ici. Ici, avec l'argent, vous pouvez quasiment tout faire qui est contre les lois même du pays, avec de l'argent. Ce qui prouve qu'il y a un problème, parce que ces gens qui vous donnent cette autorisation ou cette capacité, on peut les corrompre. Ça veut dire qu'ils ont un problème dans leur leadership, qui est très sérieux. Vous voyez ? Et donc, c'est important de comprendre ça. Et moi, je crois dans l'émergence de leaders chrétiens. J'enseigne de plus en plus sur l'influence. L'influence par la position. Ça, c'est quelque chose qui est important, mais c'est vraiment un sujet qu'on n'a pas pu beaucoup aborder. Alors, que doit faire un leader potentiel formé au pied d'un mentor, mais qui bute à un sérieux problème ? Le mentor, conscient de la grâce du dépôt de ce suiveur, après l'avoir formé et le temps de le reconnaître publiquement, la grâce étant arrivée, la formation est terminée, il refuse, en fait, il refuse, si j'ai bien compris, de le mettre en position. Indépendamment de sa volonté, Dieu permet qu'il tombe malade et qu'il l'amène dans un autre pays, loin du mentor. Et là, il fréquente une école locale où personne ne connaît qui il est, serviteur de Dieu, et il ne fait rien. Alors, si cette personne est formée, tôt ou tard, elle peut se retrouver dans un désert, mais il y a toujours la possibilité de sortir du désert. Si cette personne a une destinée, peut-être qu'elle est découragée, peut-être qu'elle a été un peu maltraitée par son mentor, malheureusement. Maintenant, il faut vraiment s'ouvrir et savoir que Dieu n'est pas le Dieu d'une seule chance. Alors, il y a une autre question. Y a-t-il possibilité de nous faire un syllabus pour cet enseignement ? Pour cela, vous verrez le pasteur Dédé. Il vous donnera toutes les modalités. Concernant la 11e loi, la loi de l'entourage, vous avez mis l'accent sur les gens qui doivent vous amener d'autres relations pour consolider votre entourage. Si ce sont des mauvaises relations, que faire ? Écarter les mauvaises relations. C'est tout. Si vous voyez qu'une personne risque de polluer ce que vous êtes en train de faire, vous êtes le leader, et vous devez protéger. Vous êtes le pasteur, vous devez protéger les gens. De la bonne manière, bien sûr. Un pasteur doit faire attention. S'il voit qu'il y a des mauvaises personnes qui commencent à s'ingérer dans le troupeau, des loups, il faut chasser les loups avec un bâton. Et si vous cassez le bâton, je vous repérerai un bâton tout neuf que je vous enverrai du Burundi. Alors, question 1. Pourquoi refusez-vous le financement d'associations par des organismes internationaux ? Essayez de lire AG 2.7. J'ai pas lu AG 2.7, excusez-moi. Prenez l'exemple aussi de Jéthro, beau-père de Moïse, qui était païen. Toutefois, il a contribué avec ses conseils à faire asseoir le leadership de Moïse. Alors, concernant cela, je vois trop de pasteurs venir et essayer de faire des projets avec de mauvais motifs. L'objectif étant toujours d'aller chercher de l'argent, et le pasteur ne fait pas ça pour les orphelins, les enfants. Son but numéro un, c'est se dire quelle bagnole je vais pouvoir retirer du projet. Quel est l'argent, quel salaire je vais pouvoir avoir. Et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Tu ne seras pas rémunéré pour ça. Sinon, ça veut dire que les ONG et les Nations Unies vont avoir la palme d'or dans le ciel. Désolé, ils n'auront rien du tout. Ils n'auront rien du tout. La meilleure façon que nous avons à faire ici en Afrique, c'est de devenir autonome dans nos projets. Ça demande du temps. Ah, ça demande du temps. Mais c'est la plus grande des bénédictions. Parce que c'est trop facile de dire à la télévision, tu vas à la RTNC, disons voilà, je suis l'association machin truc, vous voyez tous ces orphelins que j'aide, et Dieu m'a fait grâce. Ah bon ? Et c'est les Nations Unies qui t'a donné de l'argent. C'est Dieu qui t'a fait grâce ? Ça veut dire que les Nations Unies, ça vient de Dieu alors. Fais gaffe à ce que tu fais. Il y a beaucoup de gens qui confondent beaucoup de choses. Moi, je suis pour les projets autofinancés et que les gens génèrent. Si tu génères de l'argent, si tu es capable de trouver des gens ici même qui produisent de l'argent et qui vont donner, ils vont être encore plus bénis. Et ton œuvre va durer. Parce que le jour où on ferme le robinet de ton ONG, parce que l'autre ONG ne te finance plus, les orphelins, tu vas les mettre à la porte. Et je l'ai vu plus d'une fois. Je l'ai vu plus d'une fois, ça. Et ça, c'est scandaleux. Le gars qui est là, qui se targue, il a de la belle bagnole, il a tout. On a même construit ou loué une belle baraque et tout. On met les orphelins là-dedans parce qu'aujourd'hui, il y a le financement. Mais dans 2 ans, est-ce qu'il va y avoir encore un financement ? Et le jour où tu n'as plus de financement, qu'est-ce que tu fais ? Hein ? Et bien, tu as la tête basse parce que tu es obligé de dire aux enfants, ben maintenant, retournez dans la rue. Et ça, c'est un scandale. Soyons clairs, frères et sœurs. C'est à nous de faire ces œuvres. Vous savez, les catholiques ont été beaucoup critiqués par les protestants. Mais les cathos ont fait un très bon boulot social. De ce côté-là, les gars, là, ils sont les champions. Ils ont fait que du social, on est d'accord. Mais nous, les églises protestantes, la plupart des pasteurs sont des mendiants. Excusez-moi, Dieu n'est pas un mendiant. Donc, sachons générer, sachons impulser nos chrétiens pour qu'ils prospèrent et pour qu'ils puissent donner à des œuvres qui vont démarrer. Nous, on soutient, notre église soutient 2 orphelinats. On donne à peu près 2 000 $ tous les ans pour la prison centrale. On fait des actions d'évangélisation, mais on donne de l'argent. On donne des biens, quand je fais des collectes de vêtements, mais j'ai plein de cartons. Les gens donnent des costumes, ils donnent leur chemise, ils donnent tout. C'est nous, c'est notre argent. C'est nos biens. On n'est pas arrivé là du jour au lendemain. Au début, on donnait 200 kilos de riz. Mais on faisait un effort et les gens ont commencé à comprendre. Mais ce n'est pas venu du jour au lendemain. Tu ne peux pas aider. Si tu es faible, tu ne peux pas aider quelqu'un qui est faible. Tu as besoin d'être fort d'abord. D'abord, fortifie ton église. Crée vraiment une dynamique financière. Et après, tu auras la capacité d'aider les autres. Ça s'appelle la prospérité. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que je ne suis pas pour. Je le vois. Ma fille, je vais vous dire une chose. Je vais être honnête avec vous. Ma fille, elle s'occupe du programme des enfants à la maison, à l'église. On a à peu près entre 500 et 600 enfants à l'église. Elle a mis tout un programme super pour les enfants. Vraiment, les parents sont super contents. Mais en même temps, elle a un job. Elle est volontaire dans ça. Elle a un job. Elle travaille à l'ambassade des États-Unis avec un contrat local. Elle n'a pas un très gros salaire, mais elle a un poste intéressant sur les projets. Et régulièrement, elle m'appelle. Elle me dit, papa, tu vois, celui-ci, il y avait un type chrétien. Il voulait 80 litres d'essence par jour. Je dis, qu'est-ce qu'il fait le gars? Il avait un tout petit projet où il déplaçait 2-3 trucs dans un petit coin, dans une petite ville qui s'appelle Makamba au sud du pays, où la ville, elle fait quoi? Elle fait 5 km de long, 3 km de long. Il y a une route principale, c'est tout ce qu'il y a. Je lui dis, mais avec 80 litres d'essence, il va faire 800 km par jour le gars? 800 km? Il va aller où? Vous savez, nous sommes dans un tout petit pays. Et apparemment, c'était un chrétien. 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 Vous voyez ce que je veux dire? Non, ça c'est vraiment une mentalité qu'il faut abandonner, frères et sœurs. Dieu te donnera des connexions, mais déjà, fais ce que tu dois faire toi. Après, Dieu te donnera le supplément, il n'y a pas de souci. Et là, il pourra parler à des païens, oui, tout à fait, ça se passe. L'université Oral Roberts aux États-Unis, qui est très connue, université chrétienne, un jour, il y a un païen qui a donné, à l'époque, ça représenterait 30 fois aujourd'hui, ou 50 fois ce que je vous dis là, qui a donné $1 million à ce prédicateur qui devait construire cette université. C'est tout. Il a mis une annonce dans le journal. Il a dit, je vais faire une université, mais j'ai besoin de ça d'urgence. Et le païen est venu, il lui a fait un chèque $1 million dans les années 60 et quelques. Hein. Ça représente, je vous dis, plus de $50 million aujourd'hui, hein, au moins. D'accord? Alors, voilà, bon, il y a une autre question, c'est pas très intéressante. Comment un leader peut-il réparer ses erreurs? Ça, il y a plusieurs fois des questions comme ça. On vous l'a expliqué. D'abord, prendre des leçons. Prendre des leçons de ses erreurs. Je vous ai dit, c'est pas le fait de faire des erreurs qui est important, c'est le fait de savoir comment tu vas gérer tes erreurs. La repentance, le changement de mentalité, prendre des leçons, réparer, etc. Tout ça, on en a déjà discuté. On avait déjà vu ça. Qu'est-ce qu'il faut pour savoir ta destinée et la vision que Dieu te donne et comment la détecter en toi? Ben, c'est très simple. Ça s'appelle la prière de recherche et de soumission à la volonté de Dieu. Voilà. Savoir chercher la volonté de Dieu. Là, c'est tout un enseignement, je ne peux pas y répondre en quelques minutes. Mais sachez une chose, il y a des temps où tu vas chercher la volonté de Dieu. Et rappelle-toi, l'important, ce n'est pas de faire tes plans. C'est de faire ses plans. Dieu ne bénira jamais tes plans et ne bénira jamais la façon dont tu veux faire ses plans. Il bénit ses plans et il te montre la façon dont tu dois réaliser ses plans. Si tu ne veux pas te soumettre à ça, tu ne réussiras jamais. Donc c'est vraiment rechercher la volonté de Dieu et que Dieu te parle. Comment gérer ses erreurs? Voilà, comment ça on en avait déjà parlé. Alors pasteur, pourquoi dites-vous que le roi Roboam était un leader minable en rejetant le conseil des anciens? Or la Bible dit dans 1 Roi 12:15 que cela fut dirigé par l'Éternel. Alors je vous rappelle qu'il y a un temps permissif au niveau de l'hébreu. Et très souvent, les gens qui ont fait des choses que Dieu avait prophétisées. Rappelez-vous, quand Dieu prophétise le futur, sauf tout ce qui est de la souveraineté de Dieu, c'est-à-dire de la fin des temps, toutes les autres promesses qui sont futures, qui ont été données dans la Bible, sont conditionnelles. Rappelez-vous l'histoire du roi Ézéchias. Le roi Ézéchias était malade. Le prophète vient le voir, je crois que c'était Ésaïe qui vient le voir. Ésaïe vient le voir et lui dit, tu vas mourir. Parce que le Seigneur a dit que maintenant tu allais mourir de ta maladie. Qu'est-ce que Ézéchias fait? Il se met devant le Seigneur. Le prophète part. À peine il avait franchi le pas de la porte, Dieu lui dit « retourne » et dit lui que je vais rajouter 15 ans à sa vie. Ce n'est pas que Dieu ait changé d'avis, c'est que l'homme a changé d'attitude. Quand Dieu prononce un jugement, que tu changes d'attitude, tu peux changer ce jugement. Ça s'appelle l'intercession. Je sais que c'est un mot que vous utilisez un peu n'importe comment, mais il faudrait vous faire un petit enseignement là-dessus. L'intercession, c'est pour éviter le jugement que Dieu a prononcé ou le retarder. C'est ça la vraie intercession. Ce n'est pas intercéder pour son pasteur. Sinon, si vous intercédez pour le pasteur, ça veut dire que le pasteur a fait des gaffes et qu'il est sous un jugement. Et il n'est pas sous un jugement, le pasteur. En tout cas, j'espère. Alors, question, comment se remettre à l'œuvre pour un leader lorsqu'on a échoué? Eh bien, il faut d'abord être enseigné, il faut faire le point, il faut chercher pourquoi on a échoué, tout simplement. D'accord? Donc, il faut quand même... je vous rappelle, Dieu n'est pas le Dieu d'une seule chance. Moïse a eu une chance, il l'a gâchée la première fois, il en a pris pour 40 ans, mais il a saisi la deuxième chance. D'accord? Il a fait d'autres erreurs. Il a pris la femme éthiopienne, une deuxième femme, on lui a reproché. Dieu ne l'a pas sanctionné directement pour ça, le peuple l'a sanctionné. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Quand nous faisons des gaffes, eh bien, le peuple nous sanctionne. Nous demandons pardon à Dieu, Dieu nous pardonne, mais c'est le peuple qui nous sanctionne. Il faut bien comprendre la différence entre les deux. Ok, là, il y avait d'autres questions qui sont un peu trop longues ou qui sont un peu hors sujet. Alors, que diriez-vous des suiveurs qui appliquent ce principe? Croire au leader d'abord, ensuite à sa vision, et le transforme en fanatisme, en culte de la personne, cherchant plus à glorifier le leader. Alors ça, je vous dis une chose. Les anglophones commencent à tourner sérieusement dans ce problème-là, des gens qui ont particulièrement de grands ministères et qui se prennent pour des rois. Ils ont des voitures à 150 000 dollars, ils descendent, ils sont dans la voiture, comme ça. Il leur faut la Rolex, la montre Rolex à 15 000 parce que tout le monde l'a, soi-disant. Ils sont là avec des costards à 5 000 dollars sur le dos. Ils attendent que le protocole vienne leur ouvrir la porte et il y a une espèce de « attention, the man of God is here ». L'important, ce n'est pas l'homme de Dieu, ce n'est pas l'instrument. C'est celui qui oint l'instrument. D'accord? Et quand ça commence à être comme ça, je vous donnerai un conseil de vous écarter de ça. Écartez-vous des leaders qu'on adule. Aduler un leader, c'est-à-dire, c'est le mettre sur un piédestal. Et c'est à cause du peuple. Vous savez qu'il y a des gens qui ont fait chuter des leaders comme ça. Jésus n'était pas quelqu'un qu'on mettait sur un piédestal. Jésus était quelqu'un qui était tout à fait abordable, quelqu'un de simple. Des gens qui commencent à se croire importants parce qu'ils ont des suiveurs, ça c'est des gens qui n'iront pas loin. En tout cas, ce n'est pas des gens qui ont le cœur de Dieu. Ce sont des preneurs, ça. Ce sont des gens qui très souvent ont donné une façade. En fait, on met de la poudre aux yeux aux gens. Leur ont fait croire qu'ils vont les amener très loin parce qu'ils ont un langage très apprêté, très chic, très machin, très truc. Et puis finalement, leur objectif caché, c'est de retirer un maximum et de devenir un grand roi. Faites attention à ce genre de leader. Il y en a de plus en plus dans la francophonie, ça commence. Je les vois débarquer de plus en plus. Et j'avoue que ça me déplaît fort. Parce que la francophonie n'a pas besoin de cela. Elle a besoin de gens qui inspirent, oui. Elle a besoin de gens qui motivent, oui. Elle n'a pas besoin de gens qu'on met sur des piédestals. Restons simples. Où que tu en sois, reste simple. Maintenant, je te rappelle, tu as aussi ta vie privée à protéger. On est d'accord. Mais quand même, il y a une mesure. Donc, quand il y a les glorifications du leader, attention, danger. Pour le leader, danger. Pour les suiveurs, danger. On n'est pas un produit d'une église. On n'est pas le produit d'une église. Quand les gens commencent à faire du marketing de leur église, comme on fait du marketing de l'Homo ou de je ne sais pas quel salon de coiffure ou de tel produit, ça commence à être dangereux. Ça commence à être dangereux. Il y a des techniques de communication qui marchent très bien parmi les gens. Parmi les gens. Et je dois le dire, je vous le dis franchement, frères et sœurs, parce qu'on se parle cœur à cœur et ça fait des années que je suis en Afrique. En Afrique, les gens ont souvent besoin d'un gourou. Vous comprenez ce que je veux dire par ça? C'est-à-dire d'un leader qui montre qu'il est le chef, le boss. Et les gens veulent le suivre. Moi, j'étais en Afrique de l'Ouest récemment. Et je disais à un frère, je lui dis, mais dis donc, t'es dur avec ton staff, t'es dur. Il me dit, oui, en Afrique de l'Ouest, il faut être dur avec les gens. Dur, dur, dur. J'étais, wow. Parce que là, il y avait un gars, on s'était arrêté en voiture. Il ouvre la fenêtre et il lui dit, j'aime pas ce que tu fais ici. Comme ça, devant moi. Moi, j'étais... Je me suis dit, waouh. Et il me dit, oui, il faut qu'on soit dur, parce que sinon les gens font n'importe quoi, vous voyez. Donc, il y a quand même une mesure par rapport à ça, d'accord? C'est vrai qu'il y a des moments où il faut que le leader soit ferme. Mais attention. En tout cas, il y a des gens qui cherchent des gourous chrétiens, des maîtres à penser, entre guillemets. Et ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est une déviation du leadership. OK ? Alors, des leaders qui laissent créer, c'est une autre question. Les suiveurs créent le mouvement, sont-ils à leur place ? Alors, ça dépend. Un leader qui laisse les suiveurs créer le mouvement, il peut être à sa place ou il peut ne pas être à sa place. Ça peut être quelqu'un qui ne comprend pas bien le leadership. Et là, il va se faire embarquer vers les suiveurs. Et tôt ou tard, il y a des leaders qui vont émerger dans le groupe. Et soit ils vont partir avec une partie du groupe. Ça, c'est dangereux pour le leader, mais ça, c'est ce qu'il risque. Ça, il risque de faire ça. Soit ça va créer des problèmes à l'intérieur de son leadership. Voilà. Il y a des gens qui vont être plus grands que lui au niveau leadership. Et les gens, rappelez-vous, suivent ceux qui sont plus grands en leadership que nous. Voilà, c'est un principe du leadership. Donc, c'est les risques qu'ils risquent d'avoir. Alors, que faire si on est sous la conduite d'un leader ? Est-ce possible de manager ses priorités ? Oui, tu manages ses priorités par rapport aux priorités de ton leader. Absolument. C'est lui, d'ailleurs, qui doit t'aider à manager tes priorités par rapport à ce sous quoi tu es, c'est-à-dire sous sa coupe de leader. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, tes priorités vont dépendre du leader sous lequel tu travailles. C'est comme ça que ça fonctionne, le leadership. C'est le leader qui va dire, voilà, on va faire ça, ça et ça et ça. Donc, toi, comme tu es dans tel et tel département, voici sur quoi tu dois te focaliser. C'est normal. Ça, c'est les lois du leadership, ça, c'est très clair. Si tu n'es pas d'accord avec ça, ça veut dire que tu es rebelle. Alors, que dire d'un leader ? C'est une autre question qui dit ceci. Qu'il ne peut jamais suivre les fidèles qui quittent son église, je présume. Ensuite, lui-même dit du haut de la chair qu'il n'a jamais donné même 40 dollars au Seigneur, mais qu'il fait appel aux offrandes et que l'église qu'il dirige, il faut que les fidèles qui viennent soient pauvres et en sortent riches. Ça, c'est quelqu'un qui abuse le message des finances. Il y a un très beau message des finances dans la Bible. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui s'en servent. Mais jusque-là, il n'y a jamais eu de personne riche ou prospère. Alors, ça, c'est une partie de la question. Je ne pourrais peut-être pas répondre à tout le reste de la question. Mais ici, sachez une chose. Le leader doit être quoi ? Un exemple. Un exemple. Moi, dans mon église, je suis toujours le premier ou un des premiers à donner. Et depuis tout le temps. Depuis les moments où on a eu des grandes souffrances financières jusqu'au moment où tout va très bien, j'ai voulu toujours montrer l'exemple. J'ai toujours enseigné sur les finances. Mais quoi que j'avais, je me débrouillais pour donner. Et donner publiquement. Pour que les gens sachent une chose. Et ça, c'est important pour le leader. Que ce que tu dis, ce que tu enseignes, tu le pratiques d'abord. Le leader qui se met une espèce de façade et qui dit « faites ceci, faites cela, mais moi je suis exonéré », ce n'est pas un leader selon le cœur de Dieu. Le leader doit être un exemple, je vous le rappelle. D'accord ? Donc ça, c'est une règle générale. Tu es leader, tu dois d'abord être un exemple. Tu dois prendre sur toi, même quand ça fait mal, même quand tu n'as pas envie de le faire, tu sais qu'il y a des gens qui t'observent. Voilà, tout simplement. Alors, une épouse, que dire d'une épouse ? Une épouse peut-elle travailler dans une entreprise publique au moment où elle vient à l'église ? Où son mari est leader, elle ne vient qu'aux heures de prière, comme tout le monde à l'église. Alors, l'aspect de l'épouse. Quand vous vous mariez, si vous avez un appel pour le ministère, soyez clair. Soyez clair. Si vous voyez que votre fiancé n'est pas du tout d'accord à ce que vous exerciez le ministère dans le futur, le mieux c'est de ne pas se marier, frères et sœurs. Parce que sinon, tu vas avoir des histoires. Là, ça montre quand même que, bon, d'abord, pourquoi cette femme travaille ? Je ne sais pas, je n'ai pas le cas ici précis. Mais normalement, c'est au mari de pourvoir aux besoins de la famille. Ah oui. Hein, messieurs ? Amen. Oh là là, là, ils ne sont pas très d'accord. Ils protestent comme des bons protestants. Ben oui, normalement, c'est le mari qui est le moteur. Maintenant, quand on démarre une église, il peut y avoir un accord commun, au bout d'un certain temps. Au début, le mari peut travailler. Mais au bout d'un moment, si l'église commence à grandir, on peut accepter que pour un temps limité, la femme continue à travailler et le mari se met à plein temps dans l'église, mais il ne peut pas encore être rémunéré de l'église. Puis si l'œuvre grandit, à ce moment-là, au bout d'un moment, peut-être que le mari, donc pasteur, peut avoir un salaire à mi-temps pour commencer. Vous voyez, et puis ça progresse petit à petit. Il faut être intelligent dans les finances, il ne faut pas faire n'importe quoi. Maintenant, si le monsieur ne produit rien, que la dame va travailler, vous allez faire une femme frustrée. C'est normal. Le monsieur dit, je suis prédicateur, il est là, il fait 2 réunions par semaine, et sa femme bosse dur, elle ramène tout ce qu'il faut à manger à la maison pour payer le loyer. Là, il y a un déséquilibre très sérieux, et le ménage risque d'éclater. Et c'est pour ça que la dame manifeste sa frustration en ne venant qu'aux réunions de prière, juste à l'heure ou en retard. C'est comme ça que la dame va manifester sa protestation de protestante. Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que peut-être qu'elle ne pourra pas parler directement à son mari, parce que son mari va se fâcher en lui disant « Tu vois, je sers le Seigneur, donc tu dois te sacrifier. » Doucement. Il faut être sage, parce que dans les relations, des fois, on fait des bêtises. Et quand on fait des bêtises, ça fait boum boum. Alors, il y a le frère Stéphane qui a écrit un roman de questions. Donc, je vais essayer. Je ne sais pas qui est le frère Stéphane, mais apparemment, il m'en a mis une tartine. Donc, parmi la tartine, je vais en prendre juste un morceau de la tartine. D'accord ? Alors, je vais rapidement choisir parmi les 4. Comme il a écrit beaucoup de choses, je suis obligé de lire longtemps, excusez-moi. Alors, pouvez-vous donner les différentes caractéristiques du leadership de Jésus-Christ ? Qu'est toute notre vie, famille, travail, ministère, etc., doit être bâtie. La vie est bâtie sur un certain nombre de choses. Les caractéristiques. Christ n'avait pas de famille, parce que Christ ne voulait pas d'enfants et être marié. Donc déjà, on se base plus sur les expériences des autres, ce que la parole de Dieu nous dit d'une manière générale, d'accord ? Donc, sachez une chose, normalement, les priorités, c'est quoi ? La relation avec Dieu, ça c'est numéro 1. C'est Dieu ta priorité. Ensuite, tu peux mettre famille ministère ou ministère famille. Les prédicateurs ne sont pas tout à fait d'accord sur la question. Il y en a certains qui diront « Ah, famille vient en deuxième ». Oui, la famille vient en deuxième, mais parfois, si tu mets trop de temps et que tu écoutes trop ton épouse, ton époux, etc., etc., ça va empiéter sur ton ministère. C'est-à-dire qu'on va te dire « Mais non, tu ne peux pas aller là, tu ne peux pas faire ci ». Et parfois, ça freine la vision que Dieu t'a donnée. Parce que peut-être que tu ne t'es pas marié dans les meilleures conditions et qu'après, tu le payes. Mais en général, on dit « relation avec Dieu, famille, ministère ». Mais certains ont dit « Non, moi, je remets le ministère avant ». Et je mets la famille, je m'occupe de ma famille, mais d'une façon équilibrée. Parce que des fois, c'est vrai que la famille peut quasiment tout te prendre et tu n'arrives plus à exercer correctement ton ministère. Donc il faut un équilibre par rapport à ça. Et cet équilibre est plus dans la parole de Dieu en général, et dans l'expérience aussi, il faut le dire, plutôt que directement dans la vie de Jésus, parce que Jésus n'a jamais eu de famille, rappelez-vous. Jésus, c'est sa relation avec le Père qui était la plus importante et qui restait numéro 1. Ensuite, il a mis son ministère en premier parce qu'il n'avait pas de famille directement, en tout cas, femme et enfant. Alors, dernière question et après je vous libère. Après avoir vu la loi du magnétisme et nous avoir fait des commentaires selon lesquels un leader devrait se sentir sécure en attirant même des suiveurs indignes afin de les influencer et bénéficier de leur complémentarité. Par contre, avec la loi du mouvement, vous louez Salomon du fait qu'il s'est débarrassé des mauvaises personnes dans son leadership. Pour lever cet équivoque, veuillez m'expliquer, pasteur, le profil moral de ces mauvaises personnes qui entouraient Salomon au départ. Oui, alors j'ai parlé effectivement de cela. En fait, c'est David, son père, qui avait dit à Salomon, il faudra que tu élimines telle ou telle ou telle personne pour telle et telle et telle raison. Parce que c'était des gens qui avaient fait beaucoup de mal en Israël et qui risquaient d'amener la malédiction de la loi et une certaine malédiction dans le pays alors que Salomon allait commencer son règne. D'accord ? Relisez les textes, c'est ce que vous allez voir. Je vous ai dit qu'effectivement, il fallait faire attention. Votre entourage, si vous savez qu'il y a des gens qui sont foncièrement mauvais ou qui vraiment vous sont opposés, vous ne pouvez pas les garder dans votre entourage. Ou des gens qui font du dégât dans votre église. Vous les reprenez, vous leur parlez, vous leur dites « il faut que tu changes, il faut que tu te repentes ». Après avoir fait des enquêtes, parce que c'est normal, quand des gens font des histoires dans les églises, il faut savoir d'abord si c'est des bruits ou si c'est la réalité. Ensuite, tu lui parles et tu le reprends. Tu lui laisses. Il y a toujours, vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas bien, hein, en tant que leader, vous devez toujours laisser un espace au changement. D'abord, il ne faut pas croire les rumeurs. Et d'un autre côté, si au bout d'un moment, il y a un certain nombre de gens qui disent des choses, il n'y a pas de fumée sans feu. Après, vous commencez à vous intéresser à la situation, surtout si elle peut poser un certain nombre de problèmes. Et après, vous pouvez faire une chose, c'est amener les gens en face de leurs responsabilités et voir comment ils vont réagir. Il y a des gens qui vont bien réagir, il y a des gens qui vont mal réagir. Vous laissez un espace à la repentance et au changement. Une fois que vous avez laissé cet espace, si la personne continue et fait n'importe quoi, à ce moment-là, vous pouvez l'écarter. C'est mieux parce que quelqu'un, surtout qui a une responsabilité, qui commence à mettre du poison dans votre leadership, c'est quelqu'un qui doit soit changer, soit partir. Et ça, c'est normal. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.